Nous avons rencontré une femme qui travaille pour la radio Farabundo Marti du Salvador et qui est de passage à Genève pour une tournée de solidarité à cette radio. Dans l'interview d'aujourd'hui, elle va nous parler de la radio Farabundo Marti. Elsa, est-ce que tu peux d'abord nous donner un petit portrait du Salvador?
Bon alors, le Salvador, c'est un pays en Amérique centrale entre le Guatemala et puis le Honduras, à la côte du Pacifique. Et puis, c'est un pays qui est depuis environ 10 ans en guerre. C'est un pays extrêmement pauvre, avec une grande partie de la population désnutrie. Une situation économique désastreuse, une mortalité infantile très très haut, et puis évidemment un analphabétisme aussi très haut, environ 60-70% de la population qui maintenant compte environ 5 millions sur un territoire de 22 000 kilomètres carrés, ça veut dire la moitié du territoire suisse. Le Salvador, c'est un pays complètement contrôlé par une bande oligarchique, en fait une poignée des 14 familles, surtout des propriétaires de terres et puis des usines, qui, de leur part, sont totalement contrôlés et puis guidés par les États-Unis, par l'impérialisme. Bon, peut-être, ouais, en mars de l'année passée, les États-Unis, ils ont lancé un projet de rétablissement de l'image internationale du pays en voulant démocratiser l'image qu'avait ce pays. Et puis ils ont lancé les élections. Je crois que c'est évident que les résultats de cette élection, ils ont été complètement falsifiés parce que, bon, si on connaît les conditions du pays, c'est pas possible qu'il y a, je me rappelle plus exactement, je crois entre 2 et 3 millions des habitants qui allaient voter. Puis si on sait que dans le pays, il y a environ une demi-million des gens qui sont des réfugiés dans leur propre pays, et puis une autre demi-million environ qui se trouve à l'extérieur du pays, qui n'avait pas la possibilité d'aller voter. Je crois que c'est bon, la farce électorale, elle est évidente.
Tu travailles pour la radio Farabundo Marti. C'est quoi cette radio?
Alors la radio, c'est évidemment la radio de la résistance du FMLN-FDR, qui a pour but l'orientation, l'information à la population du Salvador, mais aussi l'information des populations comme Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, veut dire on l'entend plus ou moins en toute Amérique centrale. Bon, maintenant, au Salvador, il y a deux radios qui fonctionnent, veut dire le Radio Venceremos et puis la Radio Faramundo Marti. Les deux, ils fonctionnent depuis les zones contrôlées du pays. Ça veut dire que maintenant, il y a environ un tiers du pays contrôlé par la guérilla. Et puis, les deux radios, ils sont en fonction du peuple, de la résistance, veut dire du FMLN-FDR.
Tu parles de la résistance du FMNL-FDR. Est-ce que tu peux nous expliquer mieux ce que c'est?
Bon, le FMLN-FDR, c'est en fait l'ensemble de toute l'opposition du pays. Ça veut dire, bon, toutes les organisations politiques militaires, les associations, par exemple, des étudiants ou des habitants des slums, des ghettos, des professeurs, des professionnels indépendants, un peu tout le spectrum de la population. Toutes ces organisations, tous ces gens, ils sont réunis dans une organisation générale qui s'appelle FMLN, FDR. Moi, bon, avant, j'avais dit qu'il y a un tiers du pays qui est contrôlé par la guérilla. Il faut peut-être expliquer un peu que c'est des zones contrôlées par la guérilla qui se trouvent distribuées dans tout le pays. Et puis, c'est pas seulement une contrôle militaire de la guérilla, ça veut dire du côté militaire, mais c'est aussi une contrôle politique. Moi, je trouve ça, c'est un point très, très important parce que ça implique que la population, elle est intégrée dans le contrôle, que la population même, elle a le contrôle sur un territoire, elle commence à s'organiser d'une manière très très différente de ce qu'il y avait avant, qui a maintenant un pouvoir populaire qui remplace l'administration qu'il y avait avant, qui a une production qui est organisée de la population. Ils cultivent le maïs, les haricots, le sucre, et puis c'est toute l'organisation de cette zone. Et puis, pour ça, je dis que ce n'est pas un contrôle militaire de la guérilla même, mais c'est un contrôle aussi politique de la population.
Alors, tu peux nous expliquer comment fonctionne cette radio ?
Bon, la radio, elle se trouve dans un territoire contrôlé, surtout parce que ça sera impossible d'émettre depuis la capitale pour les raisons de sécurité. Je crois qu'ils sont assez comparables avec ce qui se passe ici, ou si vous émettez toujours depuis le même endroit en Suisse, vous faites repérer très très vite. Là-bas, c'est un peu la même chose, parce que faut savoir que les États-Unis, ils donnent une grande aide au régime du Salvador. Ça sera très très... Bon, peut-être pour comprendre comment elle fonctionne, la radio, faut dire que le FMLN a divisé le pays dans 4 fronts de guerre. Dans cette front de guerre, il se trouve les zones contrôlées par la guérilla. Dans un de cette zone contrôlée se trouve l'émetteur central de la radio Farabundo Marti. Et puis, dans chaque zone contrôlée, ou plutôt dans chaque front de guerre, se trouve un correspondant de guerre qui est en lien direct avec l'émetteur. Le correspondant de guerre de son côté, il a une équipe de travail que sont les correspondants populaires. C'est eux qui sont sur les lieux même, qui se passe quelque chose, je ne sais pas, un combat ou un événement ou n'importe quoi. Et puis eux, ils font des enregistrements sur des enregistreurs, des petits enregistreurs. Ils l'envoient aux correspondants de guerre d'une zone contrôlée. Et puis lui, de son côté, envoie l'information à l'émetteur central. Et puis c'est comme ça que c'est possible de faire des émissions avec les informations qui viennent de tous les côtés du pays, en informant, sur la situation militaire, sur la situation d'organisation des masses, sur la situation de la production dans les zones contrôlées, etc.
Cette radio, elle émet tous les jours ?
Oui, cette radio, elle émet 2 fois par jour, une fois à midi, et puis une autre fois le soir, chaque fois une heure. Ces heures, ils se complémentent avec l'autre radio qui émet tôt le matin et puis tôt le soir, à une heure différente de la radio Farabundo Marti. C'est pour ça que les deux radios, ils ont comme tâche d'informer le plus la population, de donner le plus des informations. Et puis le but, bien sûr, c'est qu'il y a le plus des radios possibles qui naissent, qu'on peut couvrir toute une journée avec des émissions.
Vous émettez 2 heures par jour. Est-ce que c'est pour des raisons de sécurité ou bien c'est pourquoi?
Oui, c'est évident qu'il y a une raison de sécurité. Je vous ai expliqué que le régime salvadorien, il n'est pas très pauvre dans ce sens-là. Il a les moyens de nous détecter. Et puis, il faut aussi savoir que là-bas, c'est plus seulement les fusils, sinon c'est aussi les bombes de 125 livres, les bombes de 500 livres. Alors là, il y a sûrement un point de vue de sécurité. D'autre part, il faut savoir que c'est une radio pauvre. Ça veut dire qu'il y a une petite équipe qui travaille avec des moyens techniques très très réduits, qui cherche des informations partout dans le pays, qui travaille les informations, qui font des émissions. Et puis, au niveau de capacité, pour le moment en tout cas, c'est pas possible de faire des émissions qui couvrent toute la journée.
Tu parlais des moyens de l'ennemi. Est-ce qu'ils vous cherchent? Ou bien...
Oui, alors, c'est clair que l'ennemi nous cherche. Parce que la radio, elle est un moyen de contre-information très, très grande. Et puis, ça lui plaît pas. Alors, c'est pour ça que l'équipe de la radio, il se déplace périodiquement dans les zones contrôlées, ce qui signifie évidemment un grand coût de matériel, parce que c'est des matériels techniques assez compliqués, puis un déplacement dans les conditions de guerre, et puis dans les conditions qu'il pleut, et puis qu'il fait chaud, puis... Vous pouvez vous imaginer, ça ne fait pas très bien aux appareils. D'autre part, il y a déjà quelque temps, les États-Unis, ils ont lancé une campagne. D'une part, ils ont installé un bateau dans le golfe de Fonseca.
Le golfe de Fonseca, c'est où?
Le golfe de Fonseca, il se trouve au sud du pays, entre le Nicaragua, le Guatemala et puis le Salvador. Là-bas, ils ont installé un bateau qui brouille nos émissions. Et puis, depuis très peu de temps, ils nous ont joué un très mauvais coup. Ça veut dire qu'ils brouillent l'émission de notre radio. Ils laissent le bruit quelques secondes. Et puis après, ils émettent eux-mêmes avec une radio qu'ils appellent la radio réorientation, qui utilise le même langage. Ils parlent de l'ennemi, de la révolution, des combats, de la libération, je ne sais pas quoi. Et puis, cette radio, elle a un autre contenu politique. Ça veut dire que toute la population qui ne connaissent pas très bien les voix des locuteurs de notre radio, ben ils se confondent. Et puis, ils voient pas si vite que ça, c'est la radio de l'ennemi.
Tu peux nous expliquer un peu mieux
Oui, bon, ça se passe comme ça que la radio Farabundo Marti, elle émet. Il y a l'interférence qui vient. Alors, les gens qui écoutent depuis déjà un moment, ils savent qu'à ce moment-là, il faut changer la fréquence parce que la radio, elle va continuer dans une autre fréquence. Mais tous les gens qui ne savent pas, ils restent sur la fréquence. Et puis, après un moment de l'interférence, il y a cette radio gouvernementale, ou plutôt de l'impérialisme, qui se mettent sur la même fréquence et puis qui émettent des propos réactionnaires. Ouais.
Explique, tu peux donner un exemple?
Ben, par exemple, ce qu'il essaye, c'est de diviser l'ensemble des organisations, ça veut dire le FMLN, FDR, où ils disent, bon, telle organisation, elle faisait telle et telle chose, et puis c'est contre l'unité, et puis... Bon, ils essayent de semer la merde dans l'ensemble de l'opposition.
C'est une espèce de guerre des Andes.
Mais oui, ben, je crois que c'est très juste, cette appellation. Non?
Mais est-ce que vous êtes brouillé systématiquement et puis comment est-ce qu'on vous entend?
Bon, depuis déjà un bon moment, on nous brouille systématiquement. Ça veut dire que c'est déjà assez difficile de nous entendre. Faut changer à chaque moment la fréquence. Bon, les gens qui sont habitués, ils le savent. Et puis, ils sont aussi habitués à changer la fréquence. Mais finalement, c'est ça aussi la raison pourquoi nous, en ce moment, on se trouve en Europe, en essayant de trouver les moyens pour acheter du matériel technique qui nous permet de contrer au bruyage, d'installer des appareils qui permet à la population d'écouter la radio sans avoir trop de problèmes, en cherchant comme des fous.
Bon, peut-être qu'on pourrait parler des programmes de la radio.
Oui, alors le programme, c'est qu'il y a évidemment chaque jour, les deux fois qu'on émet par jour, il y a des nouvelles, des actions militaires. D'une part de l'FMLN qui dit, bon, je ne sais pas, par exemple, tel et tel village a été pris par la guérilla, et puis la guérilla, elle faisait un meeting avec la population, elle collaborait avec de la nourriture, ou bien une groupe de la guérilla, elle faisait ensemble avec la population et les milices, elle faisait une sabotage à l'énergie électrique dans tel endroit, elle donne des nouvelles de la situation militaire à ce moment-là. C'est aussi là où la population, elle peut s'orienter. Qu'est-ce qui se passe dans le pays s'il y a, par exemple, s'il y a sur une des routes principales du pays, s'il y a des grandes concentrations du militaire, alors là, ils s'y mettent pas. Ensuite, périodiquement, il y a des émissions qui expliquent la situation militaire en chiffres. En disant, bon, durant cette quinzaine, il y a tant d'armes qui ont été réquisitionnées, il y a tant de prisonniers de guerre qui ont été faits de part de la guérilla, il y a tant de villages ou villes qui ont été prises par la guérilla, tant de meetings qui ont été faits, tant de sabotages à l'électricité, etc. Un autre bout d'émission, c'est la situation économique du pays, où par exemple, au dernier temps, on parlait beaucoup de la situation médicale, parce que le gouvernement, elle n'a plus les devises pour acheter des médicaments. Et puis, les médicaments qui arrivent, qui sont donnés par les organisations internationales au gouvernement, ils ne sont pas utilisés dans les hôpitaux communs pour la population. Déjà, bon, il n'y a pas tellement d'hôpitaux pour la population commune, parce qu'elle est très pauvre. Mais les médicaments, ils sont surtout utilisés pour soigner les militaires blessés dans les combats. La situation économique, aussi au point de vue du prix de café, etc. Il y a aussi dans les émissions des reportages sur comment le peuple salvadorien s'imagine une nouvelle société. Finalement, ce qui se passe dans les zones contrôlées, c'est le principe d'une nouvelle société, sous une nouvelle forme d'organisation, avec une participation réelle de la population, où c'est plus une petite classe d'oligarches, des bourgeois, qui disent ce qui se passe dans le pays, et surtout c'est plus l'impérialisme qui dit ce qui va se passer, mais c'est le peuple, c'est depuis l'enfant de 5, 6, 7 ans jusqu'aux vieilles, la vieille de 70, 80 ans, qui disent maintenant ce qui va se passer. Ensuite, il y a une émission qui s'appelle « Fenêtre au monde », avec des nouvelles, ce qui se passe au monde, lié avec le Salvador, par exemple. Un point très important là-dedans, évidemment, c'est la politique extérieure du gouvernement de Reagan des États-Unis, où, quand il y a des conférences de Enders, on informe là-dessus, on dit « bon, Enders, il se trouve maintenant là-bas, il se rencontrait avec le ministère de la Défense de tel pays », des choses qui sont très très importantes pour le pays même. Ensuite, il y a l'émission « Centre-Amérique en lutte », où il y a des informations des autres mouvements de libération, comme par exemple au Guatemala, ou ce qui se passe au Nicaragua. Aussi, là-dedans, la situation au Honduras, où déjà ça commence aussi avec la résistance, et puis la situation au Costa Rica. Et puis, évidemment, toutes ces émissions, ce n'est pas seulement parler très sec, mais il y a de la musique. C'est surtout de la musique comme ça, populaire, avec la guitare, et puis tout le monde chante. Aussi, disons, au point de vue culturel, la radio, elle joue son rôle. Par exemple, il y a très peu de temps, elle lançait un concours de chansons, où tout le monde est appelé d'enregistrer à travers du correspondant populaire, d'enregistrer ses chansons et de l'envoyer à la radio où c'est aimé. Moi, je ne sais pas, peut-être on peut écouter un petit bout d'une émission. Peut-être, bon, la qualité, elle n'est pas géniale, mais je crois qu'on peut se faire une petite imagination là-dessus. Alors peut-être pour expliquer, la musique qu'on a entendue, c'est la musique initiale de la radio, où le locuteur il dit aussi, bon, ici c'est la radio Faramondo Marti qui émet depuis les profondeurs des sons contrôlés, etc. Et puis après, on entendait un bout de ces reportages depuis les zones en combat. C'était le début de la campagne militaire en octobre, avec la prise de villes très très importantes au niveau stratégique.
Bon, tu peux nous dire qui fait ces programmes? Est-ce que ce sont les gens qui émettent, ou bien quelle est la structure qui permet d'élaborer ces programmes?
Bon, finalement, c'est le peuple même qui fait les émissions, parce que l'émission, elle est déterminée par l'information qui arrive, ou c'est le peuple même qui dit ce qu'il pense, ce qu'ils font, etc. Mais l'émission même, le mixage des informations, et puis le programme même, il est fait d'une équipe, l'équipe de la radio Farabundo Marti, avec les locuteurs, les techniciens, etc., dans une zone contrôlée. Et puis, c'est ceux-là qui se mettent ensemble le matin, qui voient le matériel informatif qui est arrivé depuis les fronts de guerre, qui sélectionnent le matériel, parce que des fois, il y a trop sur la production, et puis on veut pas mettre seulement des informations sur la production. Alors, ils font le mixage d'informations qui vient, en fait, depuis la population. à travers des correspondants populaires qui passent l'information aux correspondants de guerre, et puis celui-là, il émet l'information à l'émetteur central de la radio.
Voilà, et puis maintenant, qui sont les auditeurs? Qui est-ce qui écoute la radio?
Bon, écoutez, la radio, elle est écoutée par tout le monde. Ça veut dire, faut peut-être savoir un peu la situation dans le pays au niveau d'information. C'est un pays qui est sous contrôle militaire total. Ça veut dire, il y a une censure qui est extrêmement forte. Il y a des journaux qui sont contrôlé totalement par le régime, où il n'y a rien dedans, même s'ils ont 50 pages. Il y a de ces 50 pages, 45 qui sont la publicité, les annonces, etc. Mais il n'y a pas d'information, et surtout il n'y a pas d'information sur ce qui se passe dans le pays au niveau culturel, comme ça, la culture alternative ou la situation militaire. Au point de vue des radios, il y a un total de 52 stations radiales, je crois que c'est au territoire national, mais tous ces radios, ils sont totalement contrôlés par le régime. Et puis, ils émettent pas des informations. Ça veut dire que la population, elle a un grand besoin d'informations. Et en cherchant ces informations, évidemment, ils cherchent les deux stations de radio du FMLN, qui sont les deux seules qui vraiment émettent ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe au niveau militaire, où il ne faut pas passer, où on peut passer, où c'est dangereux, où ce n'est pas dangereux, qui disent quelle est la situation réelle au point de vue économique du pays, etc. Bon, si je parle de la population, je peux peut-être donner un exemple. Il y a même les familles des militaires qui écoutent la radio. Ça veut dire, bon, la radio Farabundo Martí ou la radio Vence Remos, parce que les deux, ils émettent les listes des prisonniers. Ça veut dire, si le FMLN, il fait des prisonniers de guerre, il les interviewe et il passe les interviews à la radio. Et puis, évidemment, chaque famille, elle est intéressée de savoir qu'est-ce qui se passe avec, je sais pas, son jeune dans l'armée.
Et puis, les radios, il n'y a sûrement pas tout le monde qui a une radio. Comment elle écoute?
Moi, alors, ça fait 2 ans qu'ils émettent les radios du FMLN. Dans ces 2 ans, il y a des transistors qui ont été distribués un peu partout dans le pays. Mais évidemment, ce n'est pas pour chaque famille. Sinon, moi, je peux vous dire un exemple. Une fois, j'ai vu dans une petite village qu'il y avait les femmes qui se sont mises ensemble en chantant très très fort, et juste à côté, les hommes qui se sont mis ensemble en écoutant très très doucement et très très proche de la radio, ce qu'ils lisaient la radio. Parce que, ouais, c'est l'unique moyen de vraiment être informé de ce qui se passe dans le pays.
Maintenant, le financement de cette radio, comment ça se passe? Quel est le soutien de cette radio?
Bon, alors, nous, on avait très vite vu que les finances, c'est une chose évidente, qu'il faut trouver des moyens. Et puis, on avait commencé depuis un certain temps de faire des groupes de soutien un peu partout dans le monde, ça veut dire en Europe, aux États-Unis, même en Amérique centrale, où il y a des groupes qui se sont formés, et puis ils ne se sont pas seulement formés pour ramasser de l'argent, pour distribuer la propagande, informer sur la radio, mais aussi pour informer à la radio sur ce qui se passe dans leur pays. Par exemple, je me rappelle, sur la Suisse, il y a quelque temps, la radio, elle informait sur un attentat qui se faisait contre les avions Pilatus. Et puis, c'est évident pour les gens qui écoutent ça dans le pays même. C'est une immense joie d'entendre, d'écouter qu'il y a des gens solidaires qui sont dans les autres pays, qu'eux, ils ne sont pas seuls dans leur lutte, mais qu'il y a des autres pays qui sont en lutte, qu'il y a des autres pays qui les soutiennent. Bon, il y a d'une part une solidarité au niveau de la radio avec les groupes d'appui, de soutien à la radio. Et d'autre part, il y a un immense mouvement de solidarité avec le peuple salvadorien. Où, bon, ici en Europe, aux États-Unis, surtout, là-bas, c'est vraiment très, très comparable avec ce qui se passait pendant la guerre de Vietnam, où il y a des centaines, des milliers de gens qui se mettent contre la politique de Reagan, parce que, bon, ils ont bien appris la leçon qu'ils leur donnaient les Vietnamiens. Bon, c'est la solidarité aux États-Unis, elle est maintenant à un tel point que les mouvements de solidarité, ils ont commencé à faire des maisons farabandistes. Ça veut dire des maisons de solidarité avec le peuple salvadorien, où ils peuvent aller, ils peuvent s'informer ce qui se passe, pas seulement au niveau du Salvador, mais aussi au niveau centra-américain. Parce que là, il faut peut-être dire qui était Farabundo Martí. Farabundo Martí, c'est une personne clé en Amérique centrale. C'était un internationaliste, il était de nationalité salvadorienne, mais il luttait aussi au Guatemala et entre autres aussi au Nicaragua. Il était le secrétaire de Sandino. Ça veut dire que dans ces maisons aux États-Unis, on peut s'informer sur tout ce qui se passe en Amérique centrale, sur la politique de Reagan, qu'est-ce qu'elle signifie pour ces pays-là.
Toi aussi, tu faisais partie des comités de soutien au Salvador et tu te retrouves en Amérique centrale. Qu'est-ce que ça représente pour toi de suivre, de participer à cette lutte, à cette radio?
Bon, ouais, c'est vrai que je viens d'un pays d'Europe et puis c'est plutôt pour un hasard que je me suis retrouvée là-bas et puis j'ai vu... tous les efforts de ce peuple, j'ai pu voir le peuple même. C'était une expérience très très forte de voir ça, de voir d'une part le peuple qui vraiment lutte, et puis c'est pas seulement un petit groupe, mais c'est vraiment toute la population qui lutte pour sa libération, et d'autre part, comme aussi un élément très très... très très touchant, très révoltant aussi de voir la répression. Et puis bon, sur place, moi je me suis décidée, et puis j'avais aussi la chance de pouvoir m'intégrer directement pour un bout de temps, de rester avec les copains là-bas.